Chantier permanent de la grenouille, Marseille 2013 en éprouvette. Mais qui sont ces gens de la culture ? Nous vous proposons des émissions sur des acteurs culturels de la région. Portrait de Thierry Fabre, écrivain, éditeur, directeur de la revue La Pensée de Midi et concepteur des rencontres d'Averroès.
Vous êtes, on peut dire, un intellectuel de renommée dans la région PACA, au moins. Mais vous aimez pas quand vous ne vous considérez pas vous-même comme un acteur culturel. Pourquoi ?
La notion d'acteur culturel est une notion, me semble-t-il, un peu réductrice, parce que elle réduit le monde de la culture à des actes. Et il me semble que la pensée est un acte. Et de ce point de vue, ce que la sociologie ou un espèce de monde veut enfermer dans la notion d'acteur culturel, je m'y sens assez étranger, parce que de toute façon j'ai toujours essayé d'échapper aux dénominations, aux appellations, aux inscriptions dans des tiroirs, et de plutôt braconner sur les marges et d'être d'essayer d'inventer mon propre chemin. Voilà, donc c'est simplement que j'aime pas les étiquettes, donc peut-être qu'elles s'appliquent à un certain nombre de choses que je peux faire.
Est-ce qu'on peut retracer chronologiquement, peut-être pour commencer, d'où vous venez géographiquement et qu'est-ce que faisaient vos parents ?
Je viens de Cannes, donc pas très loin de Marseille, où j'y ai vécu 17 ans. Au fond, à Cannes, c'est sans doute là où j'ai découvert ce que pouvait être la Méditerranée, pas simplement comme géographie, mais comme imaginaire. Je suis né dans un monde qui est plutôt celui de Cannes, et donc mon père dirigeait un établissement très réputé à Cannes qui s'appelle le Palm Beach. C'était des restaurants, un très grand casino, un monde, je dirais, du luxe d'une certaine façon, et de la, en même temps du spectacle, et de très grands spectacles qui étaient organisés et programmés. Donc c'est peut-être là où j'ai découvert Harry Belafonte en étant très jeune, ou quelques très grands danseurs, des choses comme ça. Mais ce monde-là m'a très vite pesé, ennuyé. Au fond, j'ai décidé d'aller à Paris faire mes études, même passer mon bac, parce que je me sentais un peu étouffé, ennuyé dans ce monde, cet écrin un peu factice qui représente à mes yeux la Côte d'Azur, à l'exception d'un lieu qui est justement l'envers de la Côte d'Azur, qui est un lieu de dépouillement, de grande force spirituelle, puisque c'est une abbaye, qui est l'abbaye de Saint-Honorat, au large de Cannes, dans les îles de la Reims. Et c'est vrai que c'est en allant regarder la mer et attendre ce qui peut se cacher derrière l'horizon à les Reims que j'ai essayé de rêver à un monde méditerranéen, à ce que pouvait être un ensemble méditerranéen. Et en tout cas, c'est là où j'ai eu le désir d'aller voir ailleurs, d'aller voir surtout ce qu'il y a de l'autre côté de la ligne d'horizon. Et de l'autre côté de la ligne d'horizon, il y a le monde arabe, il y a l'islam, il y a ce que on me présentait comme n'étant pas d'un autre monde, étant radicalement différent, étranger. Et moi, j'avais envie de voir ce qu'il y a derrière la ligne d'horizon. Et c'est ce que, au fond, c'est ce que j'ai pas cessé de faire à partir de. Donc j'ai fait des études à Paris, à l'Institut d'études politiques de Paris, puis au cycle supérieur d'études politiques, plutôt de relations internationales, de philosophie politique. J'étais chercheur rattaché aux séries Centre d'études de recherche internationale de la Fondation des sciences politiques dans les années 80. J'ai fait l'école des langues orientales pour apprendre l'arabe, et je suis parti en Égypte pour y vivre un an. Bon, ce monde-là, j'ai commencé à un peu l'apprivoiser de l'intérieur. Et à mon retour, j'avais un chemin, disons, un peu tout tracé, qui était le chemin d'aller vers les sciences politiques, la Fondation des sciences politiques, puisque mon prof Jean Leca était président de la commission de sciences politiques, et donc d'aller vers le CNRS, des choses comme ça. Et puis avec des amis qui étaient à l'ENA à ce moment-là, on a fondé quelque chose qui s'appelait le Cercle Pierre-Mendès France, qui était un lieu de réflexion à la fois politique, clairement inscrit à gauche. Et moi déjà, j'avais cette idée de la Méditerranée en tête, et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré à nouveau Edgar Pisani, que j'avais connu quand j'étais étudiant à Sciences Po. Et puis de fil en aiguille, Pisani qui rentrait de Nouvelle-Calédonie, donc qui était ancien ministre général de Gaulle, qui était ministre de Mitterrand, enfin conseiller à l'Élysée, à qui le président de la République, François Mitterrand, a demandé de prendre la présidence de l'Institut du monde arabe. Edgar Pisani m'a demandé de faire partie de son équipe de conseillers à l'Institut du monde arabe. Et ça, c'était fin 88. J'ai travaillé donc à l'Institut du monde arabe comme conseiller du président. Ensuite, on a restructuré l'Institut, on en a fait un lieu de grande exposition, le deuxième lieu d'exposition en France, à travers l'exposition Égypte-Égypte, exposition sur la Syrie, exposition de la Croix au Maroc, etc. Et Pisani m'a demandé de prendre la direction de la communication de l'Institut, de la restructurer, de m'en occuper, d'essayer de penser un peu un projet un peu différent. Donc j'ai passé 7 ans à l'Institut du monde arabe jusqu'à la fin 95. Où j'y ai créé d'ailleurs deux choses qui existent toujours, un magazine sur la culture arabe et méditerranéenne qui s'appelle Kantara, qui signifie le pont, l'arche, qui est pour moi une idée force, l'idée du pont entre les cultures, c'est une idée qui m'a longtemps et qui m'habite toujours et qui me paraît majeure de plus en plus, un symbole qui fait encore plus sens aujourd'hui, alors qu'on est en train de dresser de plus en plus de murs, et physique, et surtout dans les têtes. Et j'y ai créé, j'ai eu l'idée avec Edgar Pisani et Jean-Marie Borzex, qui était alors le directeur de France Culture, des Rencontres d'Averroès, dont la première édition donc, a été lancée alors que j'étais encore à l'Institut du monde arabe en 1994, au théâtre de Bernardine qui nous a accueillis. Et ça a été une belle surprise dans la mesure où il y avait autant de personnes dedans que dehors, même si la salle est petite. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de le faire à Marseille, alors que la ville, au départ, n'en était pas demandeuse du tout. Il a fallu les convaincre à plusieurs reprises et presque dire que on était presque arrivé à la rupture à un moment avec France Culture et Edgar Pisani. Pour moi, c'était parce que cette ville avait vocation à être une capitale culturelle de la Méditerranée, ce qu'elle n'était pas du tout à ce moment-là. Et il y avait d'ailleurs très peu d'initiatives culturelles sur la Méditerranée et le monde méditerranéen. Il se trouve que quand j'étais à l'Institut du monde arabe, j'ai créé Kantara, un des lecteurs avisés de Kantara s'appelait Jean-Claude Izzo. Et puis on a fait naître un projet qui s'appelait Bleu, la Méditerranée créatrice, que j'ai développé quand j'étais encore à l'Institut du monde arabe et qui m'a fait au fond quitter l'Institut pour venir vivre à Marseille.
Vous avez démissionné? Pourquoi ?
Je dirigeais un grand département d'une grande institution culturelle. Alors c'est vrai que les gens que je connaissais, un peu raisonnables, m'ont dit que j'étais complètement dingue de quitter une grande institution culturelle. J'avais vraiment besoin de pas simplement parler de la Méditerranée, mais de la vivre. Et donc de vivre au bord de la Méditerranée. Donc avec Izzo et quelques autres, on a fait naître ce projet. Donc j'avais un grand soutien du département des affaires internationales, du ministère de la Culture, surtout de la Commission européenne, qui m'avait donné à l'époque un accord de financement de 3 millions de francs. Donc j'avais en gros 4 millions de francs, des gros partenaires, pour monter ce festival de la création méditerranéenne à Marseille. À quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'au fond, Marseille ne s'y est pas intéressé du tout. En gros, j'ai eu une fin de non-recevoir, on m'a baladé pendant 6 mois pour me dire au fond qu'il n'en voulait pas. Mon idée, c'était de faire un rendez-vous annuel de la création méditerranéenne dans le domaine de la littérature, du design, de la mode, de la musique. Enfin bon, on avait 5 ou 6 projets avec des... D'ailleurs, dont le noyau de réflexion aurait été les rencontres d'Averroès. Et ce projet, ben, il n'a pas pu voir le jour, parce que je voulais pas faire quelque chose à l'économie sans ampleur, puisque les conditions n'étaient pas réunies à Marseille. 95-96 s'intéressait assez peu à l'idée de devenir une capitale culturelle du monde méditerranéen et de rencontrer ce qu'on appelait la Méditerranée créatrice, c'est-à-dire les formes nouvelles qui s'inventent dans le monde méditerranéen. Vous avez par exemple l'idée de Babel Med qui existe aujourd'hui portée par l'équipe de la Fiesta. Le Babel Med était mot pour mot dans le projet bleu. D'ailleurs avec l'équipe en lien avec l'équipe de la Fiesta. Donc ça n'a pas pu avoir lieu, ça a eu lieu sous une autre forme. J'ai été sollicité par Arte pour une soirée théma sur la Méditerranée. Ça m'a donné l'occasion de faire deux fois le tour de la Méditerranée. Et j'en ai tiré un livre, un récit qui part de l'Hérens et qui finit à l'Hérens, puisque c'est là où pour moi la question de la Méditerranée ou l'imaginaire de la Méditerranée a commencé.
Donc vous êtes auteur, entre autres.
Donc j'écris, oui, pas mal de choses. C'est vrai que c'est une de mes grandes activités aujourd'hui, je dirais, d'écrire et d'éditer, quoi. Maintenant, à la Maison Méditerranée des sciences de l'homme, où je suis toujours, je dirige le pôle Euromède et un programme international de recherche qui s'appelle Ramsès II, qui est sur le monde méditerranéen. On est en train de constituer le domaine des études méditerranéennes comme champ d'analyse comparée de recherche.
Et ce pôle Euromède, c'est vous qui l'avez fondé ?
Oui, et c'est une bonne part de mon activité, je dirais, de coordination d'un programme international avec une équipe que j'anime et que je dirige à la Maison Méditerranée des sciences de l'homme.
Et c'est vous qui avez choisi le nom Euromède ?
Pôle Euromède, oui. Oui, puisque c'était l'idée de constituer un pôle de compétences et de recherche transversale sur les questions euroméditerranéennes et qui, je dirais, institutionnellement voyait le jour depuis le lancement du processus de Barcelone en novembre 1995.
Et c'est pas gênant aujourd'hui, avec en parallèle, l'établissement public un peu controversé Euroméditerranée qui transforme la ville.
Méditerranée, c'est né d'un projet de la DATAR et c'est un projet d'aménagement urbain. L'Euroméditerranée, ça naît du processus de Barcelone. Donc, travaillant sur les relations entre Europe et Méditerranée, l'acronyme c'est Euromède. Donc, il y a aussi une école de commerce qui s'appelle Euromède. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui s'appellent Euromède. Moi, j'y suis pas très attaché. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le domaine des études méditerranéennes, plutôt que euro-méditerranéennes. Je pense qu'il vaut mieux prendre la Méditerranée comme centre, parce que la Méditerranée, c'est pas une région, c'est un monde.
Niña de mi corazón.
Cette émission portrait de Thierry Fabre qui dirige la revue La Pensée de Midi ainsi que les rencontres d'Averroès. Vous évoquiez le processus de Barcelone. En quoi vous y avez pris part ou vous y êtes toujours lié?
Alors, le processus de Barcelone, c'est une initiative prise par l'Union européenne. Donc il y avait l'idée de définir un horizon politique de l'Europe avec ses voisins du sud et de l'est de la Méditerranée. Donc ça, c'était la belle intention, et c'est vrai qu'on a été un certain nombre à croire qu'en fond, à prendre l'Europe au mot et à croire que j'étais en Barcelone en novembre 95. Donc j'ai suivi d'assez près tout ce processus et au fond son effondrement, son enlisement, puisque j'étais à nouveau à Barcelone en 2010 ans après, en 2005. Et là, c'était très très éloquent, même s'il y a eu une grande langue de bois collective à ce sujet. J'avais publié un texte dans Le Monde à ce moment-là sur le naufrage historique du processus de Barcelone. Parce que 10 ans après, la rencontre se faisait au niveau des chefs d'État. Et pour un projet dit de partenariat, il n'y avait pas de partenaire. C'est-à-dire que les chefs d'État n'étaient pas arabes, n'étaient pas là. Parce qu'il y avait quelque part, c'est un projet néocolonial ou postcolonial et qui n'a pas compris les enjeux, la nécessité de changer la donne et de s'inscrire dans une dynamique plus forte, quoi. Et au fond, ce qu'on appelle le projet qui a été lancé par Nicolas Sarkozy d'Union de la Méditerranée, devenu Union pour la Méditerranée, prend acte de l'effondrement du processus de Barcelone, du partenariat euro-méditerranéen, et de la nécessité de lancer quelque chose d'autre. Il serait plus nécessaire que jamais de construire ce que moi j'appelle plus volontiers une communauté de la Méditerranée, qui est un projet qui m'occupe beaucoup l'esprit, la pensée et les actes.
Mais alors, le processus de Barcelone est fini, a été remplacé par l'Union pour la Méditerranée ?
Dans un premier temps, on était Union de la Méditerranée. Alors, même si le projet était mal foutu, il avait au moins une vertu, c'est de prendre la Méditerranée comme centre. J'ai assez peu d'espoir dans ces outils aujourd'hui, dans ces grands outils qui sont mis en place et qui sont souvent des montagnes qui accouchent de souris, quoi. Donc la déclaration de Marseille qu'on a présentée comme un grand succès, vous avez qu'à la lire pour voir, c'est encore une logomachie bureaucratique et inconsistante. Donc il serait temps de passer à autre chose, quoi.
On vous sent un peu pessimiste, un peu abattu.
Oh, pas du tout abattu, non. Non, pas du pessimiste actif, en tout cas. Bah, c'est-à-dire que je regarde ces questions de près depuis assez longtemps, et donc on me fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Les enthousiasmes que j'ai pu avoir pour le processus de Barcelone, bah, ils ont suivi les chemins de ce processus, ils se sont ensablés. Donc moi, je m'identifie pas à des processus politiques ou institutionnels. Je suis pas responsable politique, je suis un intellectuel, j'écris, je publie. Voilà, j'essaie d'inventer des lieux, des idées, des formes, de faire une circulation de la pensée, de montrer qu'il y a des choses qui peuvent avoir de part et d'autre de la Méditerranée, que c'est pas une frontière, et qu'en tout cas, c'est une frontière poreuse, qu'on peut bâtir des ponts et qu'il est plus nécessaire que jamais d'en bâtir. Donc je suis pas du tout désillusionné, je suis critique, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que il y a des dispositifs, on nous a, comment dire, je n'aime pas le mensonge institutionnel. Je n'aime pas qu'on me raconte des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je n'aime pas quand on parle de la Méditerranée, qu'on a une espèce de fait des grandes déclarations qui sont aussi, ambitieuses et dépourvues d'effets sur le réel. Et donc je crois que j'estime avoir un rôle de critique, d'intellectuel critique, c'est-à-dire d'essayer de faire apparaître les angles morts, les éléments un peu que le discours public tend à enrober, à masquer, comme tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben non, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil. Il y a de la violence, de la haine, de la guerre, du tragique. Il y a pas que ça. Je défends l'idée d'une alternative méditerranéenne, d'un style de vie méditerranéen. Donc je pense qu'il y a une Méditerranée créatrice. On n'est pas dans la célébration du patrimoine, des vieilles pierres, du monde antique comme on l'a fait trop longtemps. Donc je suis pas du tout désillusionné. Je dis simplement que il serait temps que les acteurs culturels prennent en main leur propre et ouvrent leur propre chemin et ne soient pas prisonniers des dispositifs institutionnels qui souvent ronronnent. Et moi, je crois que quand il y a péril dans la demeure, le temps n'est plus de ronronner. Se joue en Méditerranée la question de la guerre et de la paix qui s'est jouée dans l'Europe du XXe siècle, et que c'est là que les choses décisives vont se jouer dans l'avenir, et que donc les effets d'annonce, les grandes rencontres qui ne débouchent sur rien, etc., me fatiguent, et que de ce point de vue-là, j'ai plutôt envie de me consacrer à des choses plus significatives que de perdre mon temps dans des processus institutionnel qui ne débouche sur rien. Donc voilà, c'est pas du tout de la désillusion, c'est de la critique. C'est de la volonté, au contraire, d'aller plus loin, d'ouvrir bien grand les yeux et de dire que on peut inventer une Méditerranée du 21e siècle, mais sûrement pas comme ça.
Sur les rencontres d'Averroès, qu'est-ce que vous pensez des critiques qui ont dit qu'elles avaient été très consensuelles ?
Je crois que ces critiques-là, pour le coup, elles n'est pas juste. Parce que quand on fait venir Nadia Yassine, responsable islamiste marocaine, il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire dans le débat public actuel. Et c'est l'opposé d'un consensus. Que la forme du débat ait été consensuelle, quoique c'est le fait qu'il y a créé un cadre de discussion qui apparemment est comme ça. Mais il fallait être dans la salle pour se rendre compte que ça n'avait rien de consensuel.
Et quelles sont aujourd'hui, quelles sont vos relations avec une municipalité de droite ? Vous disiez que ça avait posé beaucoup de blocages sur des projets que vous vouliez monter. Et une région de gauche ?
Un département qui est où ? Moi, j'ai pris, bien qu'ayant fait des études de sciences politiques et étant inscrit dans les débats dans la cité, j'ai pris le parti de ne pas être membre de quelque parti politique que ce soit, de ne pas être pétitionnaire et appeler à voter à X pour X, Y ou Z. Et donc je crois que c'est aussi une forme d'autonomie dans la cité et de mode d'inscription. Le combat politique que je peux mener, c'est pas un combat politicien. Donc je n'ai pas à me situer du côté de X, Y ou Z. Moi, je prends acte du fait que les projets, je crois, significatifs qu'on avait pu faire avec Jean-Claude, présenter avec Jean-Claude Izzo sur la Méditerranée, que ce soit le projet bleu ou que ce soit un projet de salon du livre méditerranéen, n'ont pas vu le jour. Si cette municipalité n'en a pas voulu, c'est son affaire. Moi, j'ai pris acte du fait qu'il n'en voulait pas et ça ne m'a pas empêché de continuer à faire à écrire, à publier et à faire des projets. Il se trouve que les rencontres d'Averroès ont continué depuis lors sans difficulté, sans interférence d'ailleurs, avec une assez grande autonomie. Bon, c'est vrai que ça se fait avec l'espace culture et que c'est un lieu, je dirais, de médiation efficace et compétent. Moi, je ne rencontre pas les responsables de la ville de Marseille.
L'espace culture est financé par la ville de Marseille.
Oui, notamment, mais les rencontres d'Averroès sont cofinancées à part égale avec par la ville, la région, maintenant le département, le Centre national du livre, enfin bon, un certain nombre de partenaires. Donc voilà, il n'y a pas de mon point de vue. Puis c'est pas moi qui fais le montage budgétaire et institutionnel de tout ça. Je suis le concepteur des rencontres, je définis les thématiques, je choisis les invités, je coordonne l'ensemble de la programmation. Comme responsable politique, il y en a assez peu qui viennent en rencontre d'Averroès. Régulièrement, Yvan Émieux, l'ancien adjointe à la culture. Alain Ayot, qui venait avant qu'il soit responsable de la culture à la région, et qui vient régulièrement. Michel Peset, il venait souvent. Edmond Charleroux, qui a soutenu les rencontres que je connais depuis longtemps, depuis l'Institut du monde arabe, qui venait régulièrement. Quelques autres responsables politiques, il y avait l'adjoint, nouvel adjoint à la culture, Daniel Herman, qui lui assistait à toutes les rencontres cette année, alors que son prédécesseur, Serge Bottet, n'y participait, n'y est jamais venu.
Et alors, quelles sont vos relations avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
Elles sont assez bonnes, puisque la région est le partenaire principal de la revue La Pensée de Midi. Et en même temps, chacun est dans son monde, donc qu'ils ne se confondent pas.
Mais est-ce que vous êtes consulté par la région pour des questions culturelles ?
Non, assez peu, non. J'ai été consulté au départ par Alain Ayot pour réfléchir au projet culturel de la région. Quand il a pris ses fonctions, au tout départ, il m'avait demandé de constituer un groupe de réflexion avec un certain nombre de personnes. On avait d'ailleurs fait un numéro de La Pensée de Midi sur fin de la politique culturelle. Donc là, oui, on a monté quelque chose avec la région qui est une rencontre annuelle au Festival d'Avignon dans le cadre du Théâtre des Idées. Voilà, donc il y a ce genre de rendez-vous. Mais sinon, non, je ne suis pas particulièrement consulté par la région, le département ou la ville ou le ministère de la Culture sur ces politiques culturelles. Ce n'est pas mon rôle. La langue de bois et le dogme de la toute marchandise, de ce qu'on a pensé de midi, on a appelé le mépris, est en train de s'effondrer et ouvre un espace pour, comme le disait très très bien Rimbaud, les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Eh bien, c'est des formes nouvelles qu'il s'agit d'inventer dans notre rapport au monde, et c'est peut-être ce que j'essaie de faire à travers La Pensée de Midi, les livres que j'ai édits ou ceux que je peux écrire. J'ai publié aussi le livre de mon ami Émile Temim, qui est mort malheureusement il y a peu, un très beau livre auquel il était très attaché, qui s'appelle « Le rêve méditerranéen », et qui racontait l'histoire des Saint-Simoniens au XIXe siècle et des intellectuels des années 30, et notamment autour des Cahiers du Sud, de Marseille et d'Alger, de ce rêve méditerranéen que j'essaie un peu de prolonger aujourd'hui, et qu'avec Émile Temim et Jean-Claude Izzo, on essayait de donner un peu de consistance. Mais c'est un rêve les yeux ouverts, c'est pas un rêve qui cherche à masquer le réel. C'est une façon de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, d'essayer d'avoir une utopie concrète ou une utopie créatrice, en tout cas, des façons de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont.
Est-ce qu'on a fait le tour de toutes vos responsabilités? On a oublié l'émission que vous menez sur Radio Grenouille?
Au moins.
Est-ce que c'est une responsabilité ou est-ce que c'est un acte irresponsable? Je sais pas. Écoutez, qu'est-ce que je fais principalement? Je m'occupe d'un programme de recherche, je m'occupe de rencontres publiques avec les rencontres d'Averroès, je m'occupe d'édition avec Actes Sud et d'une revue. Il y a quelques projets de documentaires avec la télévision qui sont en perspective, mais pour l'instant c'est encore en pointillé. Et puis des livres à venir. Mais moi, je ne vois pas dans l'avenir, je ne me vois pas être agitateur culturel de ce point de vue-là. Je sais pas. Pendant 2 ans, pour des raisons aussi de curiosité et de sollicitation, j'ai travaillé comme conseiller auprès du MUCEM, du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à la demande de Michel Collardel. Donc j'ai travaillé sur la réflexion, la définition du projet, les éléments de programmation. J'ai co-animé ou co-dirigé l'antenne du musée à Marseille pendant 2 ans. Donc moi, j'ai essayé de mettre à contribution et ma connaissance et les lieux, les responsables, les idées que je pouvais avoir dans le monde méditerranéen pour les connecter avec ce musée. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et puis après, comme on était dans une espèce d'incertitude et de tergiversation sur le devenir du musée, et que j'étais sollicité plus fortement par la Maison Méditerranée des Sciences de l'Homme pour développer ces programmes européens de recherche, j'ai décidé de quitter ses fonctions au musée pour diriger ce pôle Euromède et ce réseau d'excellence.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez été membre du conseil scientifique du MUCEM.
J'ai été conseiller pendant 2 ans et membre du conseil scientifique, oui, depuis le début. Oui.
Et donc toujours?
Oui, mais de façon très... Je crois que ce conseil ne s'est pas réuni depuis un moment. Et je me suis depuis pas mal éloigné de ce projet dont je ne sais pas aujourd'hui exactement ce qu'il est et ce qu'il deviendra. Et je sais qu'il y a beaucoup de débats actuels. D'abord, il y a eu beaucoup de débats sur le fait que ce projet ait lieu. Il semble avoir été à peu près tranché, grâce notamment au succès de Marseille, capitale européenne, Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013. Heureusement, la dynamique créée par Bernard Latarger autour de Marseille-Provence 2013 a créé les conditions pour que ce grand équipement puisse voir le jour et que le projet de restauration du fort, qui est quand même un des lieux les plus extraordinaires qu'il y a à Marseille et que j'ai eu l'occasion dans ces fonctions-là de connaître de près, c'est un lieu magistral. Et que le projet qu'a dessiné Rudy Ricciotti est aussi magnifique dans sa qualité, de simplicité de ligne et au fond cette espèce de modestie de ce nouveau bâtiment par rapport au fort. Les aléas politico-institutionnels ont retardé fortement le projet. Maintenant, on verra ce qu'il en est pour les années qui viennent. J'espère que le projet va voir le jour. Mais moi, je défends depuis le début l'idée d'un musée des civilisations de la Méditerranée et de l'Europe plutôt que de l'Europe et de la Méditerranée. C'est-à-dire prendre toujours la même chose, prendre la Méditerranée comme centre et l'Europe comme terme de comparaison. Parce qu'il me semble qu'à l'entrée de Marseille, ça a beaucoup plus de sens, d'une part, du point de vue de l'inscription de ce musée dans son lieu, et je crois au génie du lieu, donc que là, à l'entrée du port de Marseille, un phare culturel significatif. Moi, je rêvais un peu, vous savez, à la Piazza de Beaubourg, avec voilà, un lieu très ouvert, très transversal, très un peu comme le centre de création contemporaine de Barcelone, de CCB, des choses comme ça. Bon, on n'allait pas vers ça, malheureusement. Et puis, musée des civilisations de la Méditerranée et de l'Europe, d'une part parce que ça correspond au génie du lieu, et d'autre part parce que les questions majeures sont là. C'est là que les questions se posent. Et notamment la relation de l'Europe à l'islam. Et si, je crois, moi, l'idée de cité, c'est sans doute une des grandes forces de Marseille d'être une cité, avec cette capacité de pouvoir instituer des liens, comme on le voit d'un mode symbolique et réel au stade de football, eh bien, un musée doit s'inscrire dans la cité. Et il doit prendre en compte les grandes questions qui travaillent les sociétés aujourd'hui. Et il y a là beaucoup de choses, enfin, on pourrait décliner ça en projet d'exposition, un projet de rencontre, en cycle de conférences, tout ce qui existe aujourd'hui, non pas dans un musée, mais dans des lieux culturels qui font sens. Voilà. Ça, les lieux culturels qui font sens, ça m'importe. Donc, je crois qu'on pourrait parier sur l'intelligence à Marseille et faire de ces lieux culturels à l'entrée du port de Marseille des phares culturels. Ça a pu être fait avec la Piazza et avec Beaubourg. Pourquoi on ne pourrait pas le faire à Marseille ? Franchement, il y a besoin d'un grand lieu comme celui-là, qui est à la fois un lieu de vie, un lieu de découverte, un lieu pour les enfants. Il y a très très peu de choses en termes d'offres culturelles pour les publics, enfants, adolescents, à Marseille. Or, on voit bien qu'en termes de société, dans un certain nombre de quartiers, il y a besoin de faire autre chose que de l'amusement ou de taper dans une balle. Il y a besoin de... Si on veut constituer les citoyens, former les citoyens de demain, ça se fait aussi dans des grands lieux culturels. Et il me semble que c'est un des enjeux de ces équipements qui vont se créer, je l'espère, bientôt à Marseille. Donc, l'idée de grands lieux culturels dédiés au monde méditerranéen m'intéresse. Maintenant, quelles vont être sous quelle forme, j'en sais rien. Moi, je suis toujours un homme libre. Et j'essaie toujours essayer de créer les conditions d'une autonomie, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses qui m'importent. Donc, que ce soit à travers une revue, de l'édition, des lieux culturels, des rencontres publiques, de l'écriture. Voilà. Donc, c'est les formes dans lesquelles je me reconnais. Et puis, bon, il y a sûrement des choses majeures à faire dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Mes réactions au départ étaient une certaine réserve par rapport à la candidature telle que c'était. Les choses ont changé avec l'arrivée de Bernard Latargé et de la façon dont il a, à mes yeux, magistralement construit et conçu ce projet, qui a d'ailleurs créé les conditions pour que Marseille soit retenu, ce qui est une chance quelque part inespérée, avec un argument assez marrant qui retourne un peu les véritables handicaps que pouvait avoir Marseille, en disant que c'est la ville qui en a le plus besoin. Je crois qu'effectivement c'est tout à fait le cas. Sur la base de longues qui ont lieu d'ailleurs ici dans ce bureau de la Pensée du Midi, de longues discussions avec Bernard Latargé à deux ou trois reprises, les choses se sont petit à petit décantées, ont pris forme. J'ai eu l'occasion de parler beaucoup et souvent avec Bernard Latargé. Et c'est vrai que le projet a beaucoup d'écho à propos des questions relatives au monde méditerranéen. Donc je me sens un peu concerné. Et puis bon, Bernard Latargé a dit lui-même que ce qu'il avait lu des rencontres d'AVRES et de la Pensée de Midi avait été un peu une ossature intellectuelle pour bâtir son projet. Donc j'en suis heureux.
À quel niveau vous êtes impliqué dans Marseille-Provence 2013 ?
Au niveau de la délibération, avec Bernard Latarget et son équipe, et Bertrand Collette et Pierre Hivernin, que je connais assez bien, dans la préparation, je dirais, au moment de l'élaboration des choses, dans un certain nombre de contacts, de conseils, d'éléments que j'ai pu donner dans l'élaboration du projet, mais je dirais de façon au fond assez marginale, hein. D'ailleurs, le cœur, c'est pas du tout moi qui l'ai élaboré, loin s'en faut. Et puis à travers un projet d'exposition sur Athènes, Cordoue, Jérusalem, de la raison et de la foi, qui fait partie d'un peu des grands projets d'exposition qui sont dans le cadre de Marseille-Provence 2013, dont je serai le commissaire ou le co-commissaire avec Alain de Libérin, qui est un philosophe médiéviste avec qui j'ai créé les Rencontres d'Averroès. Voilà. Et puis il y aura peut-être d'autres choses. Nous devons nous voir bientôt avec Bernard Latarget pour repréciser, maintenant que le projet va rentrer dans sa phase, disons, active et opérationnelle. On verra comment les choses se dessinent.
Thank you.
sur Marseille 2013, peut-être pour approfondir un peu. Donc vous êtes très partie prenante du projet. Ça vous gêne pas qu'au début du livre de la candidature, il y a une citation de Nicolas Sarkozy sur l'Union pour la Méditerranée?
J'ai pas vu ça dans la présentation du livre, mais écoutez, Nicolas Sarkozy, il est président de la République française. Il a été élu sous un mode démocratique. Donc moi, ce que je retiens surtout dans l'ouverture du texte du projet de Marseille, c'est une intuition que je trouve extraordinaire de Latarger, de dire que Marseille a déjà été capitale culturelle au moment de la guerre. Et qu'il fait référence à Varian Fry. Donc j'ai plutôt fait attention à Varian Fry. Et au moment où, effectivement, les plus grands artistes européens ont trouvé refuge à Marseille avant de partir en transit, hein, vous savez, ce fameux livre d'Anna Segers, et tous ces gens que Varian Fry a sauvés. Oui, Marseille a été capitale culturelle à ce moment-là. Donc qu'il y ait une citation de l'Union pour la Méditerranée, après tout, ça inscrit ce projet dans un cadre politique. Je vois pas en quoi c'est problématique. Je veux dire, c'est une politique définie par le président de la République. Voilà, donc ça ne signifie pas une instrumentalisation de l'un par l'autre, me semble-t-il. Enfin, je le lis pas comme ça. Il me semble qu'il y a une grande liberté de pensée sur les gens qui sont associés dans ce projet. Maintenant, dire que moi je suis très partie prenante, peut-être, je sais pas encore. Je suis un peu partie prenante sur une exposition, ça c'est sûr. Pour le reste, c'est à préciser.
Mais alors, est-ce que les projets culturels autour de l'espace donc qu'on appelle euro-méditerranéen ne peuvent pas...
On va parler du monde méditerranéen plutôt que de l'espace euro-méditerranéen, mais ça c'est une construction très artificielle. Alors que le monde méditerranéen, ça existe.
Alors est-ce que les projets culturels autour du monde méditerranéen ne peuvent pas, même malgré eux, faciliter une union pour la Méditerranée telle que la conçoit Nicolas Sarkozy, donc comme un espace, une zone de libre-échange néolibérale qui favoriserait...
Il ne faut pas tout confondre. Nicolas Sarkozy a effectivement développé un projet, on sait quelles sont ses priorités, on sait qu'il a monté un projet économique avec le MEDEF, qu'il y a ce genre de choses. Ça relève de la politique et de l'économie. Je ne dis pas que le monde culturel est totalement étanche par rapport au monde politique et au monde économique, mais il ne faut pas tout confondre. Il y a une distinction des plans et des ordres, si je puis dire. Et l'assimilation de tout avec tout me paraît infondée. Donc je le dis d'autant plus facilement que j'ai sûrement écrit le premier texte le plus critique sur la façon dont ce projet d'Union pour la Méditerranée a été construit. Mais si des projets culturels qui se font dans le cadre de Marseille contribuent à faire avancer les questions méditerranéennes et que ça fournit des projets qui soient significatifs à l'Union pour la Méditerranée, qui en manque cruellement, parce que la déclaration de Marseille, la culture est quasiment absente, c'est une lacune considérable. J'ai même entendu des responsables dire que il fallait que la culture divisée et que l'économie rassemble, et que donc il fallait pas faire de projets culturels, ce qui est une erreur quand même majeur, de ne rien comprendre au monde méditerranéen que formuler les choses ainsi. Donc si à travers les projets qui sont par exemple sortis de l'atelier culturel méditerranéen porté par Jacques Huttinger, si Marseille-Provence 2013 fait émerger des projets culturels significatifs sur la Méditerranée, ben ça donnera un peu de consistance à quelque chose qui en manque cruellement. Donc de ce point de vue-là, je n'y vois aucun problème, à condition que l'on ne nous dicte pas sur le plan intellectuel, culturel, ce dont il s'agit, ce qu'il s'agit de faire. Et il me semble, à ce stade, que les conditions de la liberté de penser, de l'autonomie de création existent. Maintenant, il faudra voir à l'œuvre dans la façon dont les choses s'administrent et se mettent en œuvre dans ce cadre-là.
Et ne pensez-vous pas que la culture, via Marseille-Provence 2013, peut servir d'accélérateur à un projet de transformation de la ville qui exclurait les plus pauvres du centre-ville?
Si on est dans un projet de culture vernie, de culture tapisserie, de culture falsifiée, oui. Si on est dans le cadre d'une dynamique culturelle portée de l'intérieur par les différents responsables culturels, je ne crois pas qu'on puisse se servir de quoi que ce soit de cet ordre. La création, on ne lui met pas la main dessus facilement. Et puis les véritables créateurs, artistes, leur forme s'impose. Donc il peut y avoir un discours qu'on pourrait essayer de récupérer. Je ne crois pas à cette si grande habileté des politiques à cet égard. Non, je ne suis pas convaincu de leur capacité à... de leur art de la manipulation. Mais peut-être que je... peut-être que c'est une naïveté de ma part.
Mais le président de Marseille-Provence 2013, c'est Jacques Pfister, président de la CCI. On voit aussi que Marseille-Provence 2013 doit servir à développer le tourisme.
Un projet de candidature de ville capitale européenne de la culture, c'est un projet de développement urbain. Donc, de ce point de vue-là, l'expérience de Lille est très éclairante. C'est, je crois, 9 millions de visiteurs. Donc, oui, on peut pas. L'objectif, c'est de faire venir des visiteurs à Marseille, qui est une ville qui a besoin de se repositionner et de trouver un rayonnement. Donc, à Lille, Bonduel et les chefs d'entreprise autour de Lille ont joué un rôle très important sur la prise de conscience, au fond, de la défaillance après les grands échecs industriels autour de Lille, Roubaix et Tourcoing, qu'au fond, il y avait besoin d'un catalyseur pour changer et l'image de la ville, et en même temps, pas que l'image. Hein. Il s'est passé des choses. Il y a eu des équipements culturels qui ont été créés, il y a eu des initiatives de grande qualité, de grande ampleur, d'expositions, de festivals, de rencontres. Il est possible d'imaginer qu'il y ait ce que les gens du management appellent du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, le tourisme, y trouvent son compte et que les acteurs culturels y trouvent le leur. Si ce projet de capital culturel est uniquement de la com, ce sera un échec retentissant. C'est ce que j'appelle la culture vernie. Moi, ce que je vois quand même à Marseille, n'étant pas marseillais et n'ayant pas forcément vocation à le devenir, mais étant très heureux de vivre dans cette ville, ce qui m'intéresse dans cette ville, c'est son possible rayonnement mondial ou international, comme elle l'a été à une époque, à travers les cargos, à travers cet imaginaire maritime, etc., cette route du monde qu'a été Marseille, qu'avait si bien décrit Blaise Cendrars. De ce point de vue-là, si c'est une façon de sortir d'une espèce d'enfermement, de localisme, de petite guéguerre, de forme de médiocrité, c'est une chance considérable. Donc il faut que les acteurs culturels se saisissent de cette opportunité pour monter des projets à l'échelle nationale et internationale qu'ils ne pourraient pas monter sans ces moyens qui vont être injectés. Il y a quand même, je crois, 150 millions d'euros qui vont être injectés dans le monde de la culture, plus globalement. C'est une chance considérable, parce que il n'y aurait pas eu le développement culturel que la France a connu dans les années 80, les grands équipements culturels, dont ceux que j'ai connus de près, l'Institut du monde arabe, si François Mitterrand et Jacques Lang n'avaient pas généré des moyens financiers significatifs. Donc je crois quand même que l'expérience de Bernard Latarjé à travers ce qu'il a pu faire à l'Élysée ou ce qu'il a pu faire à la Villette montre plutôt un goût de l'exigence plutôt qu'une volonté de faire dans la facilité. Mais imaginez l'inverse. Parce que là, vous avez l'air de mettre en avant des inconvénients, des risques, des enjeux d'instrumentalisation, etc. Imaginez que Marseille n'ait pas été retenue comme capitale européenne de la culture, Marseille-Provence. L'effet de sinistre aurait été absolument considérable. Donc il faut pas surinvestir ce projet-là, et il faut pas non plus dresser des obstacles a priori, faire des procès d'intention. Il faut y aller.
C'était une émission autour de Thierry Fabre, qui est écrivain, éditeur, directeur de la revue La Pensée de Midi et concepteur des rencontres d'Averroès. Dans la même thématique, Marseille 2013 en éprouvette, retrouvez vendredi à 10h l'émission de Xavier Thomas intitulée Liverpool 2008, Marseille 2013, capitale en aller-retour. Toutes ces émissions sont en ligne sur notre site www.grenouille888.org.